Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Les Voix de service quotidien. Hélène Denis qui vous accompagne en ce premier jour de novembre 2017. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Lendemain de la veille.
Tout à fait, tout à fait.
Avez-vous mangé beaucoup de bonbons?
Non, j'en ai donné, j'en ai pas encore mangé.
Ah oui, vous en avez distribué hier?
Oui, oui, aux quelques 20 personnes qui ont bravé la noirceur.
Et un peu de pluie aussi, hein? Je sais pas s'il y a plu chez vous, mais il y a plu vers 18h30 hier. Mais pas assez pour gâcher la fête.
Absolument pas. On a été choyés. Ce n'était pas, du moins dans la grande région de Montréal, ce n'était pas un Halloween blanc. Comme certaines autres régions ont pu connaître.
Oui, ça a arrivé. C'est déjà arrivé, ça, on le sait. Au Québec, on s'attend à tout. Alors, mon cher 1er novembre, on pense évidemment à René Lévesque, mais je vous laisse aller avec les éphémérides.
Bien, commençons d'abord par cet anniversaire de décès. En 1987, s'éteignait le journaliste et homme politique québécois René Lévesque, lui qui était né en 1922.
30 ans aujourd'hui.
Oui. 1er novembre, donc lendemain de l'Halloween, c'est donc la fête de la Toussaint, telle que Serge Bradet nous a expliqué un petit peu l'histoire d'Halloween et l'origine du mot Halloween, qui, pour le paraphraser rapidement, si vous voulez dire la veille de la Toussaint.
Mm-hmm.
Donc, fête de la Toussaint aujourd'hui en ce 1er novembre et également journée mondiale vegan. Vegan qui est ce mode de vie fondé sur le refus de l'exploitation des animaux. Donc, on parle bien sûr côté alimentation, de ne pas manger de viande ou de sous-produits animaux, mais également ceux qui refusent le cuir, la fourrure, les produits testés sur les animaux. Donc, journée mondiale vegan et fête de la Toussaint en ce 1er novembre.
La fête des morts, hein, la Toussaint?
Exact,
oui. Vous avez eu peur, j'imagine, pendant la chronique de Serge Bradet tantôt?
Événement marquant, 1er novembre 1604, première d'Othello de William Shakespeare. 1800, la Maison Blanche à Washington accueille son premier locataire, le président John Adams, qui était le deuxième président, en fait, qui fut le deuxième président des États-Unis. Il a emménagé alors que la construction n'était pas encore achevée. 1er novembre 1909, le premier bateau à vapeur au Canada quitte Montréal pour Québec. Il s'agit de l'Accommodation, ou l'Accommodation. L'Accommodation était le nom du navire. Ça appartenait à la brasserie Molson. 1843, sous le régime de l'Union, Montréal devient la capitale du Canada. 1954, le meurtre d'un instituteur français en Algérie, qui sera suivi d'autres attentats du Front de libération nationale, lance la guerre dont l'Algérie en sortira indépendante en avril 1962. 1er novembre 1959, blessé au visage par la rondelle, et on parle d'une fracture du nez à New York, le gardien Jacques Plante du Canadien de Montréal reprend le jeu après s'être fait recoudre, oui. Il porte donc à partir de ce moment un masque protecteur, le premier masque officiel dans la Ligue nationale de hockey, et remporte le match 3-1. Donc, il y a toute une légende avec ça, l'adversaire étant même intimidé. Puis ensuite, il y a eu une série de 18 victoires, aucune défaite. Ah! Donc, il porte un masque, il est invincible.
Oui, oui.
Donc, c'est une autre époque.
Et ça fait rêver 18 victoires consécutives.
Oui. Et à la suite, à la demande de l'entraîneur, M. Plante enlève son masque. Et lorsqu'il enlève son masque, il perd le match. Donc, ensuite, il le remet pour le restant de la saison et remporte une 5e Coupe Stanley consécutive et le trophée du meilleur gardien. Et on sait maintenant que, bon, les masques sont obligatoires, nécessaires et servent à protéger non seulement le visage, mais la vie.
Certainement.
Des
pas
joueurs
juste,
d'hockey.
Pas juste à l'Halloween.
Pas juste à l'Halloween. Et pas seulement pour les gardiens non plus. 1970, le régime d'assurance maladie entre en vigueur au Québec. Qui était chapeauté par le ministre Claude Castonguay. 1974, à Montréal, début d'une grève des pompiers marquée par une douzaine, d'incendies en trois jours. 1er novembre 1993, le traité de Maastricht entre en vigueur, créant la nouvelle Union européenne. 1995, toujours un 1er novembre, les premières élections locales multiraciales d'après apartheid ont lieu en Afrique du Sud. 2009, Ginette Reno remporte le Félix de l'interprète féminine de l'année à la disque avec son album « Fais-moi la tendresse ». et 2009, élection municipale. On se rappelle certains noms qui n'y sont plus. En 2009, Gérald Tremblay est réélu à Montréal, Gilles Vaillancourt à Laval et Régis Labeaume à Québec, M. Labeaume étant encore en poste du moins pour cette semaine. Et Caroline Saint-Hilaire qui devient la première mairesse de Longueuil, elle qui se retire, qui en est à sa dernière semaine. 2011, dernier fait de ses éphémérides, en ce 1er novembre, le directeur général des élections autorise la création de la coalition Avenir Québec, la CAQ, partie de François Legault. On a commencé la chronique avec l'anniversaire de décès de René Lévesque et on termine avec l'anniversaire de naissance en 1905 du peintre Paul-Émile Borduas. Saint-Hilaire. Oh,
merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est à la une de tous les journaux de ce matin. La presse, l'affaire Ouellette. Je suis convaincue qu'il y aura des accusations, dit Robert Lafrenière, commissaire de l'UPAC. Le patron de l'UPAC défend l'arrestation du député Guy Ouellette, tandis que toute cette affaire monopolise les travaux parlementaires à Québec. Retour sur une journée mouvementée. J'ai été victime d'un coup monté, dit le député Guy Ouellette, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, a dit Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale. Et il y a les chroniques d'Yves Boisvert, avant de conclure, et l'éditorial de François Cardinal, l'UPAC défie le Parlement, que je vais vous lire dans quelques secondes. L'UPAC défie le Parlement, donc François Cardinal, dans la presse d'aujourd'hui. La seule chose qui est claire après le point de presse de l'Unité permanente anticorruption, UPAC, d'hier, c'est que le commissaire Robert Lafrenière voudrait traiter l'arrestation de Guy Ouellette comme s'il était n'importe quel citoyen. Circulez, il n'y a rien à voir. L'enquête se poursuit, faites-nous confiance et laissez-nous travailler normalement, s'il vous plaît. Or, ce que le patron de l'UPAC ne semble pas tout à fait saisir une semaine après cette arrestation qui n'a toujours pas été suivie d'accusation, c'est qu'il n'y a justement rien de normal dans toute cette histoire. Passe encore qu'un parlementaire soit placé en état d'arrestation. Les élus ne sont pas au-dessus des lois. Mais doit-on rappeler que l'UPAC a tout de même arrêté le député qui demandait la tête du patron de l'UPAC? Elle s'est tout de même attaquée au président de la commission mandatée pour étudier le projet de loi qui la vise directement. Guy Ouellette n'est donc pas qu'un simple individu égal avec tous devant la loi. C'est le porteur d'une lourde charge symbolique. C'est un parlementaire qui a une influence directe sur le sort de l'organisation qu'il a soudainement placée hors jeu. Cela ne lui accorde aucune immunité particulière, entendons-nous. Mais cela exige de l'UPAC un niveau plus élevé de rigueur, mais aussi de transparence. L'appel percutant prononcé hier par le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, était donc tout à fait justifié dans les circonstances. Nous devons exiger que la clarté sur cette situation soit établie de façon urgente. Or, cette demande solennelle n'a malheureusement pas reçu de réponse de la part de Robert Lafrenière. Au contraire, ce dernier s'est contenté de quelques précisions mineures comme l'heure de libération de Guy Ouellette, sans jamais dire pourquoi il a été arrêté. Oui, sur papier, l'UPAC est dans son bon droit lorsqu'elle se fait discrète. Elle respecte la procédure. Elle mène son enquête en suivant à la lettre les exigences juridiques jusqu'à preuve du contraire. Mais que Guy Ouellette ait quelque chose à se reprocher ou non, son arrestation comporte un aspect symbolique d'importance que l'UPAC ne peut ignorer. Un aspect symbolique qui a pris encore plus d'ampleur hier lorsque les parlementaires, forts de leur légitimité parlementaire, se sont levés d'un bloc pour appuyer la demande de leur premier représentant. Il ne s'agit donc pas d'une intervention politique violant la séparation des pouvoirs, mais d'une ligne tracée au sol par l'Assemblée nationale. Façon de rappeler à l'UPAC qu'elle n'est pas toute puissante et qu'elle doit justifier au minimum une telle incursion dans l'enceinte démocratique du Québec. La lumière doit donc être faite sur cette troublante affaire le plus rapidement possible, et ce pour donner confiance aux citoyens, mais aussi pour mettre fin aux allégations et rumeurs qui minent chaque jour un peu plus la crédibilité des deux institutions concernées. C'est donc l'éditorial de François Cardinal dans la presse d'aujourd'hui. exclusif à la presse, billet non déclaré offert par l'Impact de Montréal. Le maire de Montréal, Denis Coderre, n'a pas déclaré des billets qui lui ont été offerts en 2016 par le club de soccer l'Impact de Montréal. Selon deux experts en droit consultés par la presse, le maire Coderre a ainsi contrevenu au code d'éthique des élus montréalais qui exige de déclarer tout avantage reçu de plus de 200 $. Durant la saison 2016, le maire Coderre a assisté, accompagné d'un membre de sa famille, à trois matchs de l'Impact de Montréal au Stade olympique avec des billets fournis par l'équipe, le match d'ouverture le 12 mars contre New York, un match de saison le 9 avril contre Columbus et un match des séries éliminatoires le 22 novembre contre Toronto. Il a assisté à ces trois matchs avec des billets bleu royal à 89 $ le billet dans les premières rangées près du terrain. L'article 18 du Code d'éthique des élus montréalais oblige un élu à déclarer par écrit au greffier de la ville tout avantage ayant une valeur de 200 $ ou plus, ou encore si la somme des avantages consentis par une même personne est de 200 $ ou plus à l'intérieur d'une période de 6 mois. Le cabinet du maire Coderre n'interprète pas le Code d'éthique de cette façon. La directrice des communications du maire Coderre, Catherine Maurice, a indiqué que le maire n'avait pas à déclarer les billets reçus, puisqu'il avait assisté aux trois matchs à titre de maire de Montréal. Le match du 12 mars était le match d'ouverture, celui du 9 avril faisait partie des célébrations du 40e anniversaire du Parc olympique et celui du 22 novembre faisait l'objet d'un pari entre les maires de Montréal et Toronto. La présence du maire à ces trois matchs était directement liée à ses fonctions de maire et ne nécessitait pas une déclaration à cet effet. Le maire Coderre a toujours fait les déclarations prescrites par le Code d'éthique, indique par courriel Catherine Maurice. Les deux experts en droit consultés par la presse ne sont pas d'accord avec l'interprétation du maire Coderre de son Code d'éthique. Les professeurs de droit Patrick Taillon et Guillaume Rousseau sont plutôt d'avis que le Code d'éthique des élus montréalais, tout comme la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, impose aux élus de déclarer tout avantage reçu de plus de 200 $. La population de l'Est de Montréal bénéficiera d'une nouvelle maison de naissance d'ici un an. La construction de la résidence, qui comptera une équipe de 10 sages-femmes, doit démarrer en novembre pour une livraison en octobre 2018, a annoncé hier le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Quelques 400 accouchements pourraient y être pratiqués chaque année, estime le ministre. La future maison sera bâtie sur l'emplacement du CLSC de Mercier-Est, à moins de 6 km de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et relèvera du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. L'emplacement de la maison de naissance a d'ailleurs été retenu pour sa proximité géographique et fonctionnelle entre les différents services utiles aux jeunes familles. Québec versera une somme récurrente de 1,65 million pour le fonctionnement de la maison et le service de sage-femme. Bien triste histoire, le petit-fils d'un couple découvert mort dans une résidence de Sainte-Catherine a été accusé de deux meurtres prémédités hier après-midi au palais de justice de Longueuil. Jeannot Junior Cormier, 26 ans, demeurera détenu jusqu'à son procès. À ce stade de l'enquête, la représentante du directeur de la poursuite, maître Ève Malouin, a expliqué qu'une évaluation psychiatrique n'était pas jugée nécessaire. Selon la preuve recueillie par les enquêteurs de police, Jeannot Chapdelaine, 67 ans, et sa femme Simone Jourdain, 78 ans, aurait été tuée le 28 octobre dans leur domicile de la rue Forestier. Ce n'est cependant que lundi matin que les policiers ont découvert les corps des grands-parents de celui qu'on croit être le meurtrier. Le jeune homme avait déjà des antécédents en matière criminelle reliés à des agressions et des infractions. Dans le voisinage, le couple a été décrit comme des grands-parents aimants qui avaient exprimé des craintes à l'endroit de leur petit-fils.
Rosy aime les garçons qui ont du fric, sans passion ni pudeur mais sans malice. Rosy ne frissonne que pour le chic, Chanel, Dior, Hermès, c'est romantique. sonne que pour le chic. Louis Vuitton, Gucci, Prada, c'est classique.
Excès de extrait, oui, de son plus récent album. C'était la pièce Rosie de Valérie Carpentier, Madame Carpentier, dont on apprenait hier qu'elle va se joindre à la distribution de Notre-Dame de Paris.
À la une du Devoir de ce 1er novembre 2017, arrestation de Guy Ouellet, accusez-le ou excusez-vous, point d'exclamation, le président de l'Assemblée nationale tonne. L'UPAC refuse de se soumettre. Et oui, il y a une photo où on voit en premier plan M. Lafrenière, le commissaire de l'UPAC. Robert Lafrenière a rencontré la presse en fin d'après-midi mardi pour justifier l'action de son organisation à l'encontre d'un membre de l'Assemblée nationale. Quelques heures plus tôt, le premier ministre Philippe Couillard avait invité l'UPAC à être un peu plus transparente et le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avait vigoureusement défendu les droits des députés. Pénitencier, les détenus canadiens ne mangent pas à leur faim. L'enquêteur correctionnel juge que de petites portions risquent d'engendrer de gros problèmes de sécurité. Trente ans après sa mort, René Lévesque, ce qu'il reste de son héritage. Climat, la planète se dirige vers la catastrophe. Attentat au camion Bélier à New York. Culture, hommage au grand petit monde de Michel Tremblay, le dramaturge reçoit le prix Gilles Corbeil. Les prisonniers fédéraux ont faim, c'est du moins la conclusion à laquelle arrive l'enquêteur correctionnel du Canada qui montre du doigt la refonte des cuisines carcérales effectuées sous le régime conservateur de Stephen Harper. La centralisation de la préparation des repas a certes réduit le coût des portions, mais celles-ci sont également réduites, moins soutenantes et moins goûteuses. L'insatisfaction a tellement augmenté qu'elle a conduit, dans le cas le plus extrême, à une émeute mortelle en Saskatchewan. Le fait de jouer avec la nourriture de personnes affamées et frustrées peut avoir des conséquences néfastes, involontaires, écrit l'enquêteur correctionnel Ivan Zenger, qui signe son premier rapport annuel depuis sa nomination en janvier. Le pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier sur la Côte-Nord est exempté de cette réforme culinaire comme quelques autres établissements trop isolés. Or, note l'enquêteur, la prison a réussi à respecter le budget alloué par prisonnier tout en fournissant une nourriture plus appréciée. On y cuisine le pain et les muffins, par exemple. Selon les témoignages entendus, des prisonniers refuseraient de se faire transférer vers des établissements à sécurité intermédiaire afin de ne pas être soumis au nouveau régime. Cette centralisation culinaire a aussi affecté négativement la formation professionnelle des prisonniers en réduisant le nombre d'emplois disponibles, entre 300 et 400 emplois de moins, selon le bureau de l'enquêteur, et la qualité de ceux-ci. Attentat à New York, au moins 8 morts et 11 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans la Grosse Pomme depuis le 11 septembre 2001. Les faits se sont passés juste après 15 heures le long de la rivière Hudson où se pressaient beaucoup de passants s'apprêtant à participer au grand défilé d'Halloween qui se tient chaque année dans Greenwich Village. La camionnette louée auprès de Home Depot aurait emprunté la piste cyclable sur la rue Ouest sur près d'un kilomètre, renversant plusieurs cyclistes, avant d'entrer en collision avec un autobus scolaire et de s'arrêter, a expliqué le chef de la police, James O'Neill. Deux adultes et deux enfants auraient été blessés à bord du bus. Le chauffeur de la camionnette est alors sorti du véhicule, armé d'un fusil à air comprimé et d'un fusil de paintball. Le suspect a à ce moment crié « Allahou Akbar, Dieu est grand », ont confirmé les autorités. Les policiers lui ont tiré dessus et l'ont appréhendé. L'homme a été touché à l'abdomen et a dû être hospitalisé. Il devrait survivre à ses blessures, ont indiqué les autorités. L'attaque de mardi survient 5 mois après qu'un ancien militaire a lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes le 22 mai dernier. Plusieurs dirigeants européens, à commencer par le Français Emmanuel Macron et la Britannique Theresa May, qui ont connu plusieurs attentats sur le sol, ont manifesté leur solidarité mardi soir. Au moment d'écrire ces lignes, on apprenait que des ressortissants argentins et un Belge figuraient parmi les victimes. Réchauffement climatique, un rapport de l'ONU donne froid dans le dos. La cible des 2 degrés Celsius sera hors de portée à moins d'un effort important des pays. 2 ans après la conclusion de l'accord de Paris sur le climat, l'enthousiasme fait place à un constat indéniable. La faiblesse des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre conduit la planète vers des bouleversements climatiques catastrophiques. Les Nations unies pressent donc les pays, dont le Canada, à en faire beaucoup plus et maintenant. 1 an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, nous nous retrouvons dans une situation où les efforts sont encore insuffisants pour éviter un avenir misérable à des centaines de millions de personnes, a déploré mardi le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement, PNUE, Eric Solem. Ce nouveau rapport démontre aussi que plus le temps passe, plus la possibilité d'éviter la catastrophe diminue. Selon ce qu'a indiqué M. Solem, les engagements actuels des États couvre à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires pour maintenir le réchauffement sous les 2 degrés Celsius, soit l'objectif minimal fixé dans le cadre de l'accord de Paris. Dans un micro-billet publié lundi, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, réaffirmait l'urgence de l'action climatique en affirmant sans détour « Nous sommes en train de tuer notre planète ». Le caribou forestier poursuit son déclin partout au pays, y compris au Québec, constate Environnement Canada. Le fédéral souligne d'ailleurs qu'aucune province n'a élaboré les plans de protection nécessaires pour freiner la destruction de l'habitat essentiel de cette espèce menacée de disparition. Certains progrès ont été réalisés dans le rétablissement du caribou boréal, mais après 5 ans, la population globale de l'espèce continue son déclin à cause de l'augmentation des perturbations de son habitat. Peut-on lire dans le résumé du premier rapport d'étape sur la mise en œuvre du programme fédéral de rétablissement de l'espèce publié mardi? Il faut en faire davantage pour favoriser le rétablissement du caribou boréal, y compris en mettant en place des plans par aire de répartition ou documents similaires robustes, ajoutent les auteurs du document. Les éducatrices en centre de la petite enfance syndiquées à la CSN menacent de tenir 3 jours de grève les 7, 8 et 9 novembre prochains si l'impasse persiste dans les négociations en cours avec le ministère de la Famille du Québec. Le 1er novembre, les employés sont invités à porter un autocollant avec les dates de grève, indique un courrier transmis à des parents mardi. Cette annonce survient au lendemain d'une journée de débrayage tenue par plus de 11 000 éducatrices et à la veille d'une rencontre entre les parties. Les salaires et les régimes de retraite sont au cœur des négociations. Les éducatrices sans contrat de travail depuis 2 ans et demi ont voté à 94 % pour tenir 6 jours de grève. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Merci d'écouter les voix de service ce quotidien. À venir, la revue de presse du Journal de Montréal.
Faut croire que l'hiver est pris ailleurs. La neige nous prive de sa lumière. Les heures qui coulent dans la gouttière te comptent des peurs. Laisse-les pas faire. Laisse-les pas te prendre, non, laisse-les pas étendre. Tu cries dans ta chambre pour traverser novembre. Viens faire un tour dans nos mémoires, là où le soleil brille encore, où il fait jour, peu importe l'heure du soir. Quelque part en deux refrains, mais va donc pas penser que je suis blasé pour autant. Je perds mes repères face à ton corps des airs. Malgré les méandres, le vent qui veut nous prendre à l'abri dans ta chambre. Fashion.
C'était le groupe Raton Lover avec la pièce Traverser Novembre.
Et en ce 1er novembre, à la une du Journal de Montréal, qui dit vrai? Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, dit Jacques Chagnon. J'ai été victime d'un coup monté, dit Guy Ouellet, et convaincu qu'il y aura des accusations, affirme Robert Lafrenière. L'ex-policier Guy Ouellet a déclaré avoir été la cible d'un coup monté par l'UPAC lors d'un discours devant les parlementaires pour défendre son intégrité. C'est une tentative d'intimidation sans précédent. Malgré l'immunité parlementaire dont il bénéficiait au Salon Bleu, M. Ouellet n'est pas revenu en détail sur les allégations d'irrégularité à l'Autorité des marchés financiers qu'il a lancées sur les ondes du 98.5 FM lundi. Il dit toutefois avoir été arrêté alors qu'on portait à son attention des irrégularités dans l'application de certaines règles et qu'il est de son devoir de s'assurer que l'intégrité des organismes comme l'UPAC ne soit pas entachée par des luttes de pouvoir. Historique à l'Assemblée nationale. Dans un moment historique, les élus de l'Assemblée nationale se sont rangés derrière le président Jacques Chagnon qui a dénoncé le traitement réservé à Guy Ouellet contre qui aucune accusation n'a été portée une semaine après son arrestation. Un député a perdu une charge importante et sa réputation a été entachée. Que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient faites, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, a lancé M. Chagnon hier au Parlement. En 10 ans de vie parlementaire, c'est la première fois que j'entends un discours aussi fort, aussi clair, aussi net, aussi puissant de la part d'un président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas senti que ça avait été assimilé dans le discours de l'UPAC. Je sens que l'orgueil de l'UPAC est touché, affirme Pascal Bérubé, leader parlementaire du Parti québécois. Nous avons été agréablement surpris par un président de l'Assemblée nationale qui a su être à la hauteur de la situation. On a vécu un moment historique. L'UPAC ne peut pas entretenir le doute sur Guy Ouellet, affirme Amir Kadir, député solidaire de Mercier. Et maintenant, on a deux versions. On a celle de l'UPAC, on a celle de Guy Ouellet. Il y a plein de zones grises. Les parlementaires doivent aller au bout de cette histoire et rassurer la population, affirme François Bonnardel, leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec. L'UPAC nie le piège, mais admet l'appât. Le grand patron de l'unité permanente anticorruption se dit convaincu que des accusations seront portées au terme de l'enquête qui a mené la semaine dernière à l'arrestation du député Guy Ouellet. Il n'a pas précisé si ces accusations concerneraient M. Ouellet lui-même. Évoquant l'arrestation de M. Ouellet lors d'une conférence de presse, le commissaire Robert Lafrenière a parlé d'un point névralgique de l'enquête sur l'origine des fuites médiatiques concernant l'enquête Machuré. Ces fuites avaient permis à notre bureau d'enquête de révéler en avril que l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ancien grand argentier libéral Marc Bibeau avaient fait l'objet d'une surveillance policière. Appelé à commenter ces déclarations dans la soirée d'hier, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a estimé que l'UPAC jouait sur les mots en parlant d'un appât et non d'un piège. Alors, je vous lis le paragraphe précédent, ce que je viens de vous lire. Présent aux côtés de M. Lafrenière, le directeur des opérations de l'UPAC, André Boulanger, a nié que le député Ouellet ait été piégé lors de son arrestation, comme celui-ci l'affirme. Dans un exercice de sémantique subtile, M. Boulanger a préféré parler d'un appât pour justifier le fait que des enquêteurs aient utilisé le cellulaire du policier Richard Despatie pour attirer vers eux M. Ouellet. André Boulanger a indiqué qu'il s'agissait là d'une technique policière bien connue et utilisée le plus souvent pour arrêter des trafiquants de stupéfiants. un orignal s'attaque à sa camionnette. L'animal en rute s'est retrouvé à un mètre des chasseurs. Un guide de chasse et son client ont vu un orignal de près alors que la bête a frappé leur camionnette à plusieurs reprises avec ses bois. La scène a été captée sur vidéo. La scène a duré une vingtaine de minutes et s'est déroulée le 11 octobre lors de la dernière semaine de chasse. D'abord, hésitant à sortir son téléphone cellulaire de peur d'effrayer l'animal, Martin Trottier s'est finalement exécuté lorsqu'il a constaté son insistance à frapper ses bois contre le véhicule. En 10 ans de chasse, Martin Trottier n'avait jamais vu un orignal d'aussi près. La camionnette a subi quelques dommages, surtout des égratignures. Alors, ça s'est déroulé sur le site de la pourvoirie Fer à cheval entre Parent et Mont-Laurier, en Haute-Mauricie. C'est le guide Éric Gill ainsi que son client Martin Trottier qui ont été surpris par un mâle d'environ 18 mois à la recherche d'affection. En vue de la légalisation du cannabis au Canada, le gouvernement Trudeau investira 36,4 millions de dollars de plus dans une campagne de sensibilisation sur les risques associés à la consommation du produit. Ce montant s'ajoute à une somme de 9,6 millions de dollars déjà annoncée dans le budget 2017. L'initiative, qui est déjà commencée, s'étendra sur les 5 prochaines années et s'adressera principalement aux jeunes ainsi qu'à certaines populations à risque, comme les femmes enceintes, les communautés autochtones et les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Les sanctions continuent de tomber dans le dossier du système de collusion qui était en place à Saint-Jérôme alors qu'un autre ingénieur vient d'être condamné à payer 20 000 $ d'amende. Le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs a sévi hier contre Bruno Crispin, qui occupait de 2007 à 2010 le poste de directeur en infrastructure municipale pour la firme de génie conseil Dessau. M. Crispin, membre de l'Ordre depuis 20 ans, a reconnu sa culpabilité d'avoir toléré un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d'appel d'offres de la ville de Saint-Jérôme. Logo santé qui sème la confusion. Les compagnies définissent elles-mêmes leurs critères. Les logos « meilleur choix », « solution santé » ou encore « riche en fibres » peuvent induire le consommateur en erreur qui croit être devant un produit sain, tandis que ce n'est pas toujours le cas, dénoncent des experts. Des céréales riches en vitamine D ou en fibres ne nous disent pas que l'équivalent en sucre de notre récolte d'Halloween se trouve dans notre bol. On maquille le produit, c'est trompeur pour le consommateur, dénonce Corinne Voyer, directrice de la coalition Poids. Ces logos peuvent aussi avoir pour effet de déculpabiliser le client et l'encourager à manger plus parce qu'il croit avoir affaire à un produit santé, ajoute la nutritionniste Hélène Baribeau. Les expertes consultées par le journal espèrent que Santé Canada ira de l'avant avec sa volonté d'imposer un logo sur les produits riches en sucre, sel ou en gras. Tous les produits seront donc évalués selon les mêmes critères. Cependant, l'industrie s'y oppose fortement, si l'on en croit les lettres envoyées au ministère dans le cadre de ses consultations. Le premier ministre a marché le plus clair de sa journée d'hier déguisé en Clark Kent, l'identité secrète de Superman, que ce soit à la Chambre des communes ou pour collecter des bonbons en famille. Connu pour ses déguisements d'Halloween, Justin Trudeau s'est présenté à la période de questions cheveux lissés et lunettes noires sur le nez. Il a ouvert sa chemise, laissant voir le costume de Superman qu'il portait sous ses habits. M. Trudeau et sa famille se sont ensuite rendus à Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale. Ils étaient tous déguisés en super-héros. Sophie Grégoire s'était transformée en Wonder Woman, version civile. Leurs enfants incarnaient Stella de la Patte Patrouille, un loup-garou, et une seconde Wonder Woman, version traditionnelle.
You change from winter to the spring while I am sleeping. old trees of sorrow grown for me. And I could say days, but you wouldn't care.
Dark,
I see those carvings
heart.
In the tree we share.
I know that it is all
of the moments that I spend with you.
I spend them
I suddenly
away from my
feel
heart.
That none of them were true.
I know the leaves are falling
for you.
By the fire, warming up my bones, cause it's freezing and the only thing I want is to melt. I wish I had the wherewithal to do so, but I'm so alone. Don't you know that it ain't so nice to be fooling around and picking my heart up to throw it away.
And I could sit days, but you would.
Talk
I see those carvings
heart.
In the tree we share.
I know that it is
all of the moments that I spend with you.
I spend them
I suddenly feel
heart.
That none of them were true.
I know the leaves are falling
for you, fading for me. Those bright lights just ain't lights of love left to be. And now I'm like, hey, what's going on? Days as the days go by, and nothing seems clear as I clearly try
to
figure out why
I
fell in love so hard. It must be these apples
heart.
That I ate at the start.
In the end,
I'm calling for you, oh please answer to me. Those bright lights are still lights that I'd like to see, and now I'm like, hey, what's going on?
La formation de Seasons et l'extrait de leur premier album, Apples.
Après sa mort, René Lévesque, ce qu'il reste de son héritage, c'est un article de Jean-François Nadeau dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le 1er novembre 1987, décédait chez lui René Lévesque. Le 5 novembre, au passage de son cortège funéraire, les gens applaudissaient à tout rompre. Certaines bonnes âmes, habituées aux convenances prémoulées, se dirent choquées par un tel tumulte au passage d'un mort. Il y avait pourtant dans cette réaction populaire spontanée quelque chose de bon enfant qui ne pouvait tromper quant à l'affection profonde que suscitait René Lévesque dans la population. 30 ans après sa mort, 40 ans après la fondation du mouvement Souveraineté Association, MSA, lequel allait donner naissance au Parti québécois, que reste-t-il de la pensée de René Lévesque? On doit aux historiens Éric Bédard et Xavier Gélinas d'avoir patiemment rassemblé et annoté près de 1400 chroniques de René Lévesque demeurées curieusement à peu près inédites jusque-là. Entre 1966 et son élection comme premier ministre en 1976, l'homme a davantage de temps pour revenir à l'écriture. Et il écrit. Il y a dans cette réserve abondante de textes un formidable terreau pour comprendre ce qui animait René Lévesque. Si plusieurs politiciens étaient à l'époque invités à prendre régulièrement la plume, Lévesque se distingue d'eux par une rare capacité à mettre en forme ses idées sur une multitude de questions. À compter de 1966, il écrit une colonne pour Dimanche Matin, puis pour le Clairon de Saint-Hyacinthe à compter de 1969. L'année suivante, il tient une chronique dans le quotidien de Pierre Péladeau. Au Journal de Montréal, faute de pouvoir compter sur d'autres revenus puisqu'il a échoué à se faire élire député aux élections d'avril 1970, il accepte d'écrire 6 jours par semaine. Pour cette montagne de mots publiés dans un journal populaire, il est payé 200 $ par semaine, soit l'équivalent de 1 280 $ en 2017. L'évêque doit en tout cas travailler comme une bête de somme pour écrire autant, tout en maintenant ses autres engagements à titre de chef du Parti québécois. L'évêque traite d'une multitude de sujets qui apparaissent encore aujourd'hui d'une actualité brûlante. Impossible de tout résumer ici. Faut-il être millionnaire pour faire de la politique? L'évêque peste contre cette élite qui s'entretient en quelque sorte elle-même grâce aux bénéfices de son argent. Avec un certain orgueil, il répète qu'il n'est pas, pour sa part, un fils de l'aristocratie de l'argent, ce qui marque une distance supplémentaire avec son adversaire Trudeau. La modestie de ses origines constitue dès lors une sorte d'étoile polaire par laquelle il situe l'ensemble de ses idées. Le salaire des médecins? La condition des hôpitaux? Dans nos orgies budgétaires aux fruits si décevants, il n'est sans doute rien de plus stupidement onéreux que le fouillis hospitalier, patronage médico-partisan, parachutage à la volée de grands hôpitaux « politiques », entre guillemets, parallèlement au sous-équipement tragique de région, coulage et gabégie dans les achats de fournitures. Les régions, il en parle sans cesse. Il se bat contre la fermeture de petites municipalités, dénonce les aménagements financiers avec Ottawa, tout en continuant de prendre la mesure du pays en des mots choisis. À un aussi haut niveau politique, qui se soucie aujourd'hui autant que lui de la péninsule gaspésienne? À l'extrême pointe de la Gaspésie, comme un pouce s'écartant de la pomme le long de la baie de Gaspé, tout osseux de roc noirâtre et velu de résineux, la presqu'île de Forillon. Il montre aussi de fortes et constantes préoccupations pour la culture. Ce n'est pas pour lui une industrie, mais un fondement. Il parle ainsi assez souvent de littérature, se montrant curieux des œuvres des meilleurs écrivains. Il parle ici d'Anne Hébert, là encore de l'œuvre du poète Fernand Ouellet. Il cite aussi assez souvent des œuvres classiques. Dans une chronique, il narre une rencontre animée avec le poète Gaston Miron, qui se trouve dans le même avion que lui en direction de Toronto. Il suit aussi de près les développements de la pensée de l'essayiste Pierre Vadeboncœur. En un mot, la littérature, comme représentation forte de la culture, fait partie de l'équation sociale que pose l'évêque au sujet du Québec. On le voit ici et là, plongé dans les arides statistiques, celles du chômage par exemple, pour essayer de tirer des profondeurs un portrait plus juste orienté vers des temps meilleurs. L'évêque est un vulgarisateur né. Il n'affirme pas, il explique. La question de l'accessibilité au logement pour tous revient régulièrement sous sa plume. Cela l'intéresse infiniment, plus en tout cas que la construction d'autoroutes. L'état des routes lui sert surtout d'indicateur à une pauvreté générale. Ainsi, à propos de sa Gaspésie, dans une note de tournée, il écrit « Il est 1 h du matin sur une route étroite, sinueuse, crevassée, parfois déchiquetée au bulldozer et laissée en pièces, sans signalisation. » Une route que, comme je n'en avais vu qu'outre-mer, en pays dévasté. La question de moralité dans les affaires publiques revient souvent sous sa plume. Devant les magouilles, il montre un profond dégoût, tout en se montrant résolu à réformer les institutions pour les rendre plus démocratiques. L'esprit démocratique est tenu en haute place sous sa plume. Au tempérament bouillant des jeunes révolutionnaires qui pullulent alors, il répond que la situation n'est pas perdue, qu'il est possible de forcer la porte pour entrer de plein pied dans l'avenir. La lutte est certes difficile, mais il existe tout de même, croit l'évêque, des façons de changer le monde. La plume de l'évêque propose aussi une critique des médias. Il ne les méprise pas, mais il n'est pas dupe pour autant du fait que ces espaces ne sont pas accrochés aux nuages et qu'ils soutiennent des luttes de pouvoir. Combien de chefs de parti railleraient aussi ouvertement la pensée qui prédispose aux éditoriaux de la presse ou de Gazette? On sent qu'il brûle de parler de politique internationale. C'est dans cet horizon que l'évêque situe sa quête d'un Québec souverain. Très peu de politiciens québécois ont ainsi constamment replacé leur patrie dans ce grand horizon du monde. Au fil de ses chroniques, l'évêque parle donc de Nasser, de la question irlandaise, de la situation à Singapour, de l'Allemagne, du Chili, du Vietnam brûlé par les bombes de napalm, de l'Égypte, de la France, de l'Angleterre, etc. Les idées de l'évêque n'ont souvent pas pris une ride. Faut-il en conclure que l'essayiste Pierre Vadeboncœur avait raison à son sujet quand il écrivait en 1976 dans Le secret d'un journal personnel publié depuis, que l'évêque était un cas à part? Grand ami d'enfance de Pierre-Éliott Trudeau, Vadeboncœur en était venu pourtant à admirer l'évêque dont il passait les idées au scalpel pour mieux les analyser. Dans son journal, Vadeboncœur écrit « Je tiens l'évêque pour un génie, un authentique génie. Je ne l'écrirai pas publiquement parce qu'un mot semblable a toujours une apparence de naïveté quand on l'applique à un contemporain. Habitué de peser chacun de ses mots comme s'il devait être coulé dans le bronze à jamais, Vadeboncœur s'explique ainsi en secret et pour lui-même ce qui fait à son sens de l'évêque une figure à part au milieu des 50 ans de vie politique qu'il a connue. Imagination extraordinaire, association d'idées d'une extrême richesse et rapidité, bon sens vraiment supérieur, pardon, pénétration, rapidité et justesse du coup d'œil, don d'expression, surtout verbale, tout à fait supérieur, créativité saisissante. Le taux de combustion de cet esprit-là est celui de l'incandescence. » C'était une citation de Pierre Vadeboncœur qu'on trouve dans la chronique de Jean-François Nadeau et René Lévesque, Chronique politique 1 et 2, sous la direction d'Éric Bédard et de Xavier Gilnas. C'est publié chez Urtibise à Montréal.
Cigarette au bec, tu oses du firmament. Tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est bien décevant. Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes. Mais loin de moi, René, l'envie d'en beurre épais ou de trop te glorifier, le monde l'a déjà assez fait. C'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage il reste juste ma petite chanson puis un boulevard à ton nom. Quand je regarde ma contrée perdue et à l'abandon, sans projet de société, hymné par des pauvres pions, champion de la langue de bois et du politically correct, me semble que c'est pas ça que tu voulais pour le Québec. Avant de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel, parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres. Je dis ça de même, merde-toi pas dans ta tombe.
Les Cowboys fringants, dans une chanson où il était question de René Lévesque. 1er novembre 1987, René Lévesque s'éteignait. Gala de la disque, le discours de Serge Postigot fait réagir. L'humoriste Martin Petit a durement critiqué hier le discours de remerciement de Serge Postigot au gala de la disque. Récompensé dimanche pour Mary Poppins, le metteur en scène avait entre autres demandé de ne pas laisser l'horreur décider de l'avenir des employés de Juste pour rire à court et moyen terme à la suite de la crise qui touche l'entreprise. Les employés de Juste pour rire devraient peut-être avoir une petite pensée, entre guillemets, en public pour les ex-employés de Juste pour rire, ceux qui ont subi les agressions, les viols et les abus et qui ont eu le courage de les dénoncer, a tweeté Martin Petit. Il a aussi partagé un article du HuffPost Québec relatant le harcèlement psychologique entre les murs de l'entreprise. L'article que Serge Postigot a oublié de lire, d'après l'humoriste. Joint par la presse, Martin Petit n'a pas souhaité commenter la situation plus en détail. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix et je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission avec les actualités internationales, les actualités culturelles et artistiques et la tournée des journaux régionaux.
Petit pour toi, tu préfères partir à dos d'oie, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Garde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent, entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Pierre Lapointe qui posait la judicieuse question « Sais-tu vraiment qui tu es? »
Actualité internationale, crise en Catalogne convoquée par la justice, Puigdemont s'installe à Bruxelles. Le dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont a tenté hier de déplacer la crise catalane au cœur de l'Europe en annonçant son installation à Bruxelles, avec une partie de son gouvernement destitué quelques heures avant sa convocation par la justice espagnole. Sous la menace de poursuites pour rébellion, après la déclaration d'indépendance du 27 octobre, M. Puigdemont a expliqué lors d'une conférence de presse à la mi-journée qu'il comptait rester en Belgique avec quelques-uns de ses ministres pour expliquer au monde les défaillances démocratiques de l'État espagnol. Il a exhorté la communauté internationale et en particulier l'Europe à réagir, accusant le gouvernement de Mariano Rajoy de miner les valeurs de l'Union européenne. En fin de journée, une juge d'instruction de l'Audience nationale espagnole, juridiction spécialisée dans les dossiers complexes, a annoncé qu'elle convoquait demain et vendredi M. Puigdemont et 13 de ses ministres en vue de leur inculpation. La magistrate a été saisie lundi par le procureur général de l'État qui lui a demandé d'engager des poursuites, notamment pour rébellion et sédition, chefs passibles respectivement d'un maximum de 30 et 15 ans de prison. Le parquet les accuse d'avoir encouragé un mouvement d'insurrection au sein de la population, évoquant un soulèvement violent. Thank you. Facebook, Twitter et Google se sont engagés hier devant le Congrès américain à tirer les leçons de la campagne présidentielle de 2016 et à empêcher des acteurs étrangers comme la Russie de s'immiscer de nouveau dans la vie politique du pays. Les trois géants de l'Internet ont détaillé les résultats de leurs enquêtes internes sur les comptes russes, énuméré les mesures prises depuis l'élection, ainsi que le nombre d'embauches de salariés voués à la lutte contre les pourriels et les faux comptes automatisés ou aux intentions néfastes. Le directeur juridique de Facebook, Colin Stretch, a confirmé que des acteurs russes avaient publié des contenus payants ou gratuits avant l'élection pour semer la discorde dans la société américaine, en faisant semblant de promouvoir des causes comme la lutte contre le racisme, mais dans l'intention de jeter de l'huile sur le feu, par exemple sur l'islam ou l'immigration. La tension est montée hier dans la bande de Gaza au lendemain de la mort de 7 militants palestiniens dans la destruction par Israël d'un tunnel, un des incidents les plus meurtriers depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014. Les 7 hommes, des membres de la branche armée du mouvement islamiste Hamas et de son allié du djihad islamique, ont été tués par la destruction à l'explosif en territoire israélien, d'une galerie souterraine provenant du sud de l'enclave palestinienne. Leurs funérailles ont eu lieu hier dans leur localité d'origine dans la bande de Gaza, territoire maintenu sous blocus israélien depuis une décennie et totalement coupé du monde depuis la fermeture de sa frontière avec l'Égypte. Le Hamas sait comment obtenir revanche et frapper là où cela blesse l'ennemi israélien, a prévenu le chef du mouvement Ismaël Haniyeh dans un communiqué. Il était présent à l'une des cérémonies de funérailles selon des témoins. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé hier que son pays ne tolérerait aucune attaque, qu'elle vienne des airs, des mers, du sol ou du sous-sol. « Nous attaquons ceux qui nous attaquent », a-t-il dit. Plus de 200 personnes pourraient avoir péri dans l'effondrement début septembre d'un tunnel sur le site des essais nucléaires en Corée du Nord provoqué par le plus puissant test atomique souterrain qu'elle ait effectué à ce jour, a annoncé hier la télévision japonaise. Le pape François a reconnu qu'il lui arrivait de s'endormir lorsqu'il priait, tout en assurant que c'était une manière parmi d'autres de sanctifier le nom de Dieu. « Moi aussi, quand je prie, des fois je m'endors », déclare en souriant le pontife argentin dans un entretien qui doit être diffusé mercredi par la télévision catholique italienne TV 2000. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle aussi le faisait et que cela plaisait à Dieu, ajoute-t-il, avant de citer un psaume appelant le croyant à être devant Dieu comme un enfant dans les bras de son Père. C'est une des nombreuses manières de sanctifier le nom de Dieu, me sentir enfant dans ses bras, assure le pape, 80 ans. Le Canada subit de plus en plus de cyberattaques de la part de gangsters d'États étrangers et de geeks dans leurs caves, a déclaré un ministre hier, mais un rapport suggère que l'investissement du gouvernement en cybersécurité reste inadéquat. Le Centre de sécurité des télécommunications a conclu dans un rapport que le Canada n'investit pas suffisamment dans sa cybersécurité et que trop d'attaques parviennent encore à pénétrer les systèmes électroniques gouvernementaux. Le rapport du Centre précise que le gouvernement stoppe chaque jour près de 600 millions de tentatives d'intrusion visant à identifier ou exploiter une brèche informatique. La tournée des journaux régionaux maintenant, c'est dans le Nouvel East, sous la plume d'Isabelle Légaré. Jean-Philippe, à votre service. Jean-Philippe Cholette sait exactement ce qu'il a à faire. Il lui suffit de zieuter la salle à manger pour savoir qui veut quoi. Une petite soupe? Ici, un thé? Un dessert? Le jeune homme va de table en table pour s'enquérir des besoins de chacun. À ces questions simples, des réponses claires et un signe de tête en guise de remerciement. Entre deux services, le garçon me regarde à la dérobée, conscient que je l'observe aussi. Ça l'amuse, mais il n'en perd pas moins sa concentration. Le pouce en l'air, je lui fais signe que j'ai compris. C'est l'affluence en cette heure du dîner. On jasera plus tard. Jean-Philippe est l'employé ponctuel, vaillant et loyal que tout patron souhaite retrouver au sein de son équipe. Ses initiatives ne sont pas banales non plus, surtout dans une résidence pour personnes âgées où chaque petit geste compte. La nouvelle pensionnaire peut déjà en témoigner. En poste depuis septembre seulement, celui que les autres employés surnomment JP a remarqué avant tout le monde que la dame ne boit rien d'autre que du café après le repas. J'imagine qu'il le surnomme JP. Inutile de lui offrir autre chose. Sa réponse restera la même. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, le serveur perspicace, donc JP, revient de la cuisine avec une tasse fumante qu'il dépose délicatement sur la table avant de se redresser, le dos bien droit. « Et voilà, » dit-il, satisfait de lui, en se permettant cet avertissement pour sa vieille amie. « Attention, c'est chaud! » Du 1er au 7 novembre, c'est la Semaine nationale de sensibilisation au syndrome de Down, une occasion de nous sensibiliser aux personnes qui vivent avec une trisomie 21. Jean-Philippe Cholette ne s'arrête pas aux journées thématiques, encore moins au diagnostic qui le rend différent à nos yeux. Depuis toujours, le garçon se sait aimé tel qu'il est par sa famille, qui n'a jamais hésité à aborder le sujet de son handicap avec lui et autour de lui. Je l'ai rencontré en compagnie de sa sœur Vanessa. « C'est ma bosse », précise Jean-Philippe avec une fierté non dissimulée. Vanessa Cholette est nouvellement propriétaire de la résidence Le Havre. Avant même de prendre la direction de Saint-Maurice au printemps dernier, la jeune femme originaire de la région de Lanaudière savait qu'elle embaucherait Jean-Philippe. La directrice âgée de seulement 27 ans n'était qu'une fillette lorsqu'elle a compris que son frère, pas comme les autres, pouvait être un exemple d'intégration. La suite est en train de lui donner raison. C'est leur mère, Chantal Crivello, qui m'a proposé d'aller leur rendre visite. « Vous allez voir, mon fils accomplit plusieurs tâches à la résidence » et a un bel impact sur les personnes âgées, m'a-t-elle dit au bout du fil. La femme habite la ville de l'Assomption où ses trois enfants ont grandi. Jean-Philippe est le plus jeune, celui dont la naissance a forcément chamboulé la routine avant que tout le monde se donne le mot pour lui permettre de s'épanouir le plus normalement possible. Or, aider l'autre, c'est s'aider soi-même. Ses proches ont appris à vivre harmonieusement avec une réalité dont ils ne se sont jamais cachés, même qu'enfants. Sa sœur et son frère aîné ont réclamé une petite sœur trisomique pour compléter la fratrie. C'est leur mère qui raconte l'anecdote avec amusement. Sans vraiment le réaliser, le jeune homme exerce une influence sur les siens. Ses parents ont décidé de devenir une famille d'accueil pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, alors que sa grande sœur s'est tout naturellement dirigée vers la profession d'éducatrice spécialisée. Son entourage croit en lui et fait tout en son pouvoir pour que Jean-Philippe ait la possibilité de nous montrer de quoi il est capable. Ce n'est pas offert à tous, malheureusement. À partir de 21 ans, les jeunes adultes qui présentent une déficience intellectuelle n'ont plus accès à l'encadrement scolaire, les ressources spécialisées sont insuffisantes et les emplois se font rares. Des parents arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs grands-enfants laissés à eux-mêmes. Vanessa Cholette ne pouvait s'imaginer Jean-Philippe passant toutes ses journées à la maison à ne rien faire. Il a trop de potentiel pour rester assis devant la télé. La nouvelle directrice de la résidence Le Havre n'a pas mis de temps à lui proposer un boulot qui fait le bonheur de tous, même que cette expérience convaincra peut-être d'autres établissements à se tourner vers des employés aussi efficaces que JP. « J'aime faire toutes les tâches », assure Jean-Philippe, qui travaille 3 jours par semaine. En plus de servir aux tables, il s'occupe de passer le balai, de faire le lavage, de sortir les poubelles. Il est vraiment bon et de semaine en semaine, il est encore plus, affirme Vanessa Cholette, qui permet à son frère de se joindre aux activités des résidents une fois son travail terminé. Sa bonne humeur provoque des sourires parmi les gens âgés qui ne s'arrêtent pas à sa différence. Ils en font plutôt l'un des leurs. L'autre jour, une dame lui a montré à jouer aux cartes, aux 500. Le jeune homme n'est pas certain d'avoir compris toutes les règles du jeu, mais ce n'est pas ça qui compte pour lui. Il a gagné une partie de plaisir en bonne compagnie. Dans le quotidien Catherine Bellé-Murray, l'Halloween fait des heureux. Petits monstres, grands zombies, mignonnes coccinelles et gentilles abeilles ont envahi par milliers les rues de Saguenay mardi, le temps de l'Halloween. Dans le quartier des Campanules à Jonquière, il était difficile de ne pas être impressionné. Plusieurs centaines d'automobiles étaient stationnées sur le boulevard René-Lévesque, entre la rue du Roi-Georges et le boulevard du Saguenay, puisque l'entrée du quartier avait été fermée à la circulation. Nous avons fait 900 sacs et on va en manquer vers 19h, a expliqué vers 17h30 Stéphane Garraud, dont la maison est sise sur la rue des Campanules. Depuis que le quartier existe en 2008, il y a beaucoup d'enfants qui passent. Vers 18h30, il y aura du monde partout. Et dans le droit, Paul Gaboury, un investissement de plus de 400 millions à Gatineau. Bibliothèque et Archives Canada, BAC, va construire un deuxième centre de préservation juste derrière le centre actuel sur le boulevard Le Carrefour à Gatineau. Le projet, évalué à 400 millions, doit commencer d'ici 2 ans en prévision d'une ouverture en 2021. Il sera réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé pour lequel un appel a été lancé mardi. Le projet Gatineau 2, tel que surnommé par les responsables à la BAC, la Bibliothèque et Archives Canada, est le résultat de plusieurs années de discussion. Il viendra combler un besoin pressant puisque les analyses démontrent que la capacité maximale de stockage de la collection dans les différents édifices que l'institution occupe sera atteinte d'ici quelques années. Après une analyse des options menées avec services publics et approvisionnement, le modèle public-privé a été retenu parce qu'il serait celui offrant la meilleure valeur ajoutée, ont indiqué les responsables lors d'une conférence tenue au centre actuel en présence de plusieurs dignitaires. L'appel de soumissionnaires lancé mardi prendra fin dans 2 mois et 4 jours. Isabelle Pion dans la tribune, les troubles anxieux touchent une personne sur 5. Les troubles anxieux touchent environ 20 % de la population au cours de leur vie, voire peut-être davantage, ce qui en font un problème d'envergure majeure. Une équipe de chercheurs mène une vaste étude afin de favoriser l'accessibilité à un type de thérapie qui pourrait aider les personnes présentant ce type de troubles. On vit tous de l'anxiété à l'occasion, c'est normal. Ça peut devenir un trouble anxieux quand ça fonctionne à interférer Quand ça commence à interférer avec le fonctionnement de la personne, met en contexte Pascal Roberge, professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, FMSS, de l'Université de Sherbrooke. Les troubles anxieux sont caractérisés, entre autres, par des symptômes comme des palpitations, des tremblements, en plus d'affecter le comportement, comme l'évitement de certaines situations, et ils peuvent aussi créer de la détresse. L'étude est menée par la professeure de l'Université de Sherbrooke et le co-chercheur Martin Desprovenchers de l'Université Laval en collaboration avec d'autres chercheurs. On sait depuis plusieurs années que la thérapie cognitive comportementale est efficace pour aider les gens ayant des troubles anxieux. Le problème, c'est que l'accès demeure encore très limité, note Mme Roberge, directrice de l'axe Santé Pop du Centre de recherche du CHU. Plusieurs freins limitent son accessibilité. On pense entre autres au manque d'expertise, de même qu'aux listes d'attente au public. Je suis préoccupée par la dissémination de la TCC pour que les gens avec des troubles anxieux y aient accès. Je cherche de nouvelles modalités pour rendre la TCC plus accessible. Pour y parvenir, elle s'intéresse donc à la TCC transdiagnostique qui rassemble des gens qui présentent différents types d'anxiété et qui est offerte en groupe. Les gens ont souvent des symptômes communs d'appréhension ou d'évitement. On s'intéresse à tout ça de manière commune. Les stratégies d'intervention sont souvent plus ou moins les mêmes à travers les différents troubles anxieux. Je pense que ça a un grand potentiel d'améliorer l'accès à la TCC au Québec. Par exemple, dans le système de santé publique, il y a souvent des interventions de groupe qui sont offertes. Dans la prochaine phase de notre projet, si on souhaite disséminer à grande échelle ce type d'intervention, pourrait être adopté par les professionnels qui travaillent dans le réseau et, du coup, accroître l'accès. Les personnes sont rassemblées dans des groupes de 8 à 10 avec deux thérapeutes. Les interventions s'étirent sur 12 semaines. Cela pourrait être une première étape d'accès à la TCC, note Mme Roberge, qui est la chercheuse principale de l'étude. Alors voilà, pour ce qui concerne cette nouvelle, je vous en ai lu un bon extrait. Et TCC, je vous rappelle que ça signifie thérapie cognitive comportementale. Culturel. Alors, on en a entendu tantôt une chanson de Valérie Carpentier et la chanteuse Valérie Carpentier fera donc ses débuts au théâtre en septembre prochain dans Notre-Dame de Paris. Les créateurs de la comédie musicale Luc Plamondon et Richard Cochiante étaient réunis hier après-midi sur la scène du Théâtre Saint-Denis à Montréal en compagnie de la nouvelle distribution de la reprise du spectacle. Cette production marquera aussi le 20e anniversaire de la création de Notre-Dame de Paris, on écrit ici NDP, dont la première a eu lieu le 16 septembre 1998 à Paris. La lauréate de La Voix interprétera la jeune Fleur de Lys. Elle se joindra aux vétérans de Notre-Dame de Paris tels que Daniel Lavoie dans le rôle de Frollo, Richard Charest, Gringoire, Angelo Del Vecchio, Quasimodo, et aussi à la chanteuse libanaise Iba Tawaji qui reprendra le rôle de la belle Esmeralda créée par Hélène Ségara. Fin de chapitre pour la librairie T. Westcott, boulevard Saint-Laurent, au nord de la rue du Lutte. Un chapitre se ferme avec la fermeture imminente de la bouquinerie anglophone T. Westcott Books, réputée et chaotique caverne littéraire vieille d'un quart de siècle. Jadis en affaires rue Sainte-Catherine, près de l'ancien forum, Terry Westcott a posé ses livres sur la Maine en 2010. Si l'aventure prend fin, c'est moins pour des raisons de santé de son propriétaire à 74 ans. M. Westcott dit bien se porter que financière. Place aux auteurs, la 40e édition du Salon du livre de Montréal recevra plus de 2000 écrivains, plus de 2000 auteurs. 2000 auteurs, dis-je bien, sont attendus à la 40e édition du Salon du livre de Montréal qui se tiendra du 15 au 20 novembre à la place Bonaventure. Les 10 invités d'honneur sont Sophie Bienvenue, dont le roman « Et au pire, on se mariera » a récemment été adapté au cinéma par Léa Poul, José Bisaillon, Rose-Lyne Brasset, Fanny Britt, Andrea Michaud, Jean-François Nadeau, Louise Penny, Éric Plamondon, Fetwinsta Sarr et Aude Seigne. Pour connaître toute la programmation de l'événement, salondulivredemontréal.com. La lutte pour l'obtention du Grand Prix du Livre de Montréal 2017 se fera entre Marie-Claire Blais pour son roman Des chants pour Angel, Jacques Brault, essai Images à Mallarmé, Stéphanie Clermont, recueil de nouvelles Le jeu de la musique, Marie-Pascale Huglot, récit Montréal Mirabel, et René Lapierre, recueil de poésie intitulé Les adieux. Marie-Claire Blais a déjà reçu cet honneur en 2012 pour son roman Le jeune homme sans avenir. L'an dernier, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette qui a été primée grâce à son récit biographique La femme qui fuit, le nom du nouveau lauréat de la plus importante distinction littéraire remise par la Ville de Montréal depuis 1965, sera connu le 13 novembre. Une bourse de 15 000 $ sera aussi décernée à l'auteur gagnant. Cinquantième anniversaire des Belles-Sœurs, la fois où le Joual est entré au théâtre, l'année 2018 marquera le 50e anniversaire de la création des Belles-Sœurs, œuvre phare de notre dramaturge Michel Tremblay. Pour souligner cet événement, une nouvelle mouture de la version musicale sera offerte au public québécois. Voilà un cadeau qui vaut bien des milliards de timbres primes. C'est un article de Mario Girard, j'y reviendrai certainement. Mais je voulais quand même vous annoncer que Belle-Sœur sera repris. Cette nouvelle version sera présentée à Sainte-Thérèse, Chicoutimi, Trois-Rivières, Gatineau, Québec, Sherbrooke et Montréal. Entre juillet 2018 et janvier 2019, les billets seront en vente le 4 novembre. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Merci Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve lundi prochain, j'espère bien, parce que vous n'y êtes pas le jeudi et le vendredi habituellement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous par actualité si vous nous écoutez en direct. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.